This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde. Ce soir, c'est avec Marcia Bechara de la rédaction brésilienne.
Buon noite.
À propos de l'inquiétude de nombreux enseignants concernant la politique éducative du nouveau président Pizemam de la rédaction cambodgienne, pour faire le point sur l'actualité politique thaïlandaise, et pour la rédaction en anglais, Jean van der Meijde.
Good evening.
Pour nous parler d'une troupe chinoise en tournée en France. Mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir l'absence d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à quelques semaines du Brexit maintenant. Pizet, un peu plus d'un mois donc de la date butoir, ce Brexit sans accord menace de plus en plus.
Oui Philippe, en effet, afin de trouver une sortie à cette impasse, Theresa May avait tenté de renégocier avec Bruxelles le 7 février sur le fameux backstop. Mais Bruxelles reste campée sur leur position et refuse de négocier cet accord. Jean-Claude Juncker a répété à Madame May, pas question de détricoter la partie controversée concernant le backstop. Pour le président de la Commission européenne, l'accord de retrait conclu en novembre dernier constitue un compromis équilibré entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Du côté britannique, à l'heure actuelle, l'opposition des unionistes au backstop demeure implacable. Arlene Foster, chef de DUP, a continué d'attaquer l'intransigeant de Bruxelles et de Dublin sur cette question de backstop. Effectivement, le risque d'un échec des négociations se profile très sérieusement.
Jean van der Meijde du service en anglais de RFI en Grande-Bretagne, où les sentiments anti-Brexit n'ont cessé de progresser ces dernières années. Comment et pourquoi ?
Oui, il faut dire qu'entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, cela n'a jamais été un mariage facile, comme on savait. Londres n'a attiré qu'à réticence avec le CE, la Communauté économique européenne, en 1974. Et puis le 7 février 1992, il y a 27 ans, cette semaine, on leur a présenté le traité de Maastricht, qui proposait une intégration plus rapide de l'Union européenne. Pourtant, d'après John Barry, un politologue de la Queen's University Belfast en Irlande du Nord que j'ai interviewé, ce n'était pas le traité de Maastricht qui était responsable du sentiment anti-européen croissant de la Grande-Bretagne.
C'était plutôt un sentiment plus présent au sein du Parti conservateur.
Sans compter que même au sein du Parti travailliste britannique, nombreux sont les membres qui n'ont jamais été entièrement favorables à l'Union européenne. John Barry pense que donc, ce n'est pas tant la structure juridique de l'Union européenne qui s'est surdéveloppée, c'est la politique, la culture et la dynamique interne au sein même du Royaume-Uni qui ont rendu le Brexit inévitable. Et indépendamment de traités comme celui de Maastricht, par exemple, une chose est sûre, en 1992, la question de l'Europe divisait déjà la politique britannique, y compris le Parti conservateur. J'ai demandé à Barry pourquoi, dans ce contexte-là, le gouvernement britannique voulait tellement s'associer au projet européen.
This is the time of John Major, who was the Conservative leader and indeed Prime Minister, who took over from Margaret Thatcher. And certainly he was less Eurosceptic.
Alors, que vous a dit ce politologue de la Queen's University?
Il dit que c'était l'époque de John Major, qui était le chef conservateur, le premier ministre qui a succédé de Margaret Thatcher. Il dit que Major était moins sceptique vis-à-vis de l'euro que Margaret Thatcher, mais qu'il reste encore un nombre considérable de membres émanant de cette Parti conservateur. John Major n'avait donc qu'une très petite majorité au Parti conservateur qui était en mesure de convaincre la Grande-Bretagne et le gouvernement de soutenir Maastricht.
Comment a évolué, Yann, ce sentiment de la population britannique à l'égard de l'Union européenne depuis donc 1992 et ce fameux traité de Maastricht?
Oui, au cours des 10-15 dernières années, une campagne médiatique a été menée, en particulier par la presse de droite, notamment le Daily Express et le Telegraph, pour propager une perspective anti-Europe. Ce sont ces deux journaux britanniques qui ont véhiculé des informations approximatives sur la bureaucratie tatillonne de Bruxelles accusée de vouloir interdire les bananes trop courbées et surtout les dicter à la Grande-Bretagne qu'elle devrait faire. Donc, d'un côté, vous avez un très fort parti pris nationaliste de droite anti-européenne dans la presse ainsi que le Parti conservateur, et vous avez aussi à gauche Jeremy Corbyn, critique de longue date de l'Union européenne. Beaucoup de gens disent qu'ailleurs qu'il a probablement voté en faveur du Brexit lui-même. Pour lui, l'Union européenne est une institution de privatisation néolibérale et capitaliste.
Donc on le comprend, il y a depuis longtemps en Grande-Bretagne des critiques envers l'Union européenne, et elles ont été nourries par les deux partis traditionnels. Hein.
Oui, ces sentiments anti-européens ont pu être aussi facilités par des autres facteurs. Pour John Barry, l'ignorance du commun citoyen est la clé du problème.
Perhaps the most important issue is profound ignorance amongst the general population in education and so on.
Quelle est son analyse?
Il dit que le problème le plus important est l'ignorance profonde et le manque d'éducation sur ce que l'Union européenne. Et il dit qu'on peut ajouter à ce une critique légitime de l'Union européenne. Il dit que cette critique est le déficit démocratique, une distance que les citoyens ordinaires sentent entre eux et l'institution. Union européenne, en particulier le Parlement européen.
Voilà pour ce point d'histoire. Revenons avec vous, Pizet, sur les tractations qui ont lieu en ce moment. Il semble que la première ministre britannique arrive à obtenir un geste positif de la part de Bruxelles.
Oui, en effet, il faut noter qu'avant de venir à Bruxelles, Theresa May a reçu une proposition pour le moins intéressante de la part du leader des travaillistes, Jeremy Corbyn. Il propose que le Royaume-Uni reste dans l'Union douanière européenne afin d'éviter le problème de backstop. Donc, pour trouver un accord, un compromis sur ce point, il faut certainement ouvrir une renégociation de déclaration politique avec Bruxelles. Et donc, devant les journalistes, Jean-Claude Juncker a souligné qu'il était d'accord pour une renégociation d'une déclaration politique avec Londres. Cette déclaration esquissant la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne va accompagner l'accord de retrait afin qu'il soit plus ambitieux sur le fond.
Marcia, vous voulez nous parler, vous, du fait que des Britanniques se sont rendus compte juste après le leave, c'est-à-dire le oui au référendum, c'est-à-dire de quitter l'Union européenne, que finalement ça allait avoir des conséquences, qu'il allait falloir payer la facture. C'est ce qu'on appelle le Brexit regret.
Oui, Philippe, ils sont nombreux depuis 2016 à regretter leur décision de quitter l'Union européenne. Ils ont même reçu un petit surnom très sympa du journal britannique The Guardian, qu'ils appellent les Regressiters, expression à l'origine d'un hashtag devenu célèbre sur les réseaux sociaux. Bref, les mots Regressiters désignent à la base ceux et celles qui ont voté pour le Brexit comme une forme de protestation et qui les regrettent maintenant. Les votes de protestation semblent d'ailleurs être toujours à la mode dans les quatre coins de la planète, comme nous rappelle The Guardian, sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis et pourquoi pas, j'ajoute, le Brésil. Il suffit de regarder ce que les votes soi-disant des protestations a mis en place à Copacabana. Selon les mots du philosophe brésilien Vladimir Safatle, il s'agit d'une extrême droite militariste, révisionniste, plébiscitée par les votes populaires. Mais revenons au Royaume-Uni, ce qui paraît tragique chez les Regressiters, c'est qu'ils sont rendu compte trop tard que cette élection ne se résumait pas à donner un coup de pied à David Cameron et aux eurocrates. Le résultat du référendum touchera directement leur vie et leur avenir.
Marcia, qui sont ces Britanniques finalement qui veulent rester dans l'Union européenne face à l'incertitude qui règne une fois la porte européenne claquée?
Selon la presse britannique, ils viennent de toutes tranches d'âge, de la petite vingtaine jusqu'au senior de 60 ans. Plusieurs clubs politiques confondus, prix entre la livre qui perd en valeur, une inflation qui augmente, un coût de divorce chiffré à environ 40 milliards d'euros. Ils craignent surtout, et avec raison, Philippe, un Brexit no deal. Certes, ils sont minoritaires entre les 17 millions qui ont voté pour la sortie, mais ils se sont fait entendre l'été dernier quand un rapport du spécialiste britannique de sondage John Curtis a démontré qu'une majorité de 59% des Britanniques voteraient en faveur du maintien du Royaume-Uni, un basculement d'opinion tout à fait inattendu.
Voilà pour ce Brexit dans Accent du Monde. Vous écoutez RFI.
20 degrés Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI. En Thaïlande, il y a une candidature de dernière minute pour les élections législatives qui auront lieu le 24 mars, celle de la princesse, sœur aînée du roi. Elle se présente en effet au poste de Premier ministre et cela change complètement la donne, Pisemam. On peut même parler d'un véritable coup de théâtre.
Oui, en effet, Philippe, la nouvelle tombée à Bangkok le vendredi matin était un séisme politique en Thaïlande. Pour la première fois depuis la fin de la monarchie absolue en 1932, un membre de la famille royale thaïlandaise se présente aux élections législatives. Le scrutin se tiendra lieu le 24 mars prochain. À 67 ans, la princesse Ubonaratna Ratchakanya est la sœur aînée du roi actuel. Certains la nomment la princesse rebelle car elle ne respectait guère les traditions ancestrales de la maison royale thaï. En 1972, elle s'est dépouillée de ses titres royaux après avoir épousé un routard américain. Après le divorce en 98, elle est revenue s'installer en Thaïlande à partir de 2001, avant d'embrasser la carrière politique, a été aussi une actrice très respectable en Thaïlande.
Donc c'est une personnalité, certes, il y a aussi le côté politique, le parti politique qu'elle représente, c'est un parti proche des deux anciens premiers ministres thaïlandais qui avaient été chassés du pouvoir par des coups d'état militaires.
Effectivement Philippe, la princesse Ubonratna a été désignée comme candidat au poste de premier ministre par le parti Thai Raksachat. Ce parti, créé en automne dernier, est un rassemblement des quelques élites et des personnalités publiques thaïes proches du clan Thaksin Shinawatra et sa sœur Jinglar Shinawatra, et tous les deux étaient chassés par les coups d'état militaires respectivement en 2006 et 2014. La princesse Ubonratna a été vue ces derniers mois en compagnie de Thaksin à Londres, selon l'expert de la politique thaïlandaise Sean Crispin sur le site Asia Times. Des photos d'elle avec Thaksin et sa sœur lors de la Coupe du Monde à Moscou circulent également sur le net. Ce qui est encore inédit, c'est que cette princesse est aussi connue pour être toujours très proche de son frère, le roi Vajiralongkorn.
Alors, est-ce qu'il est possible que le roi de Thaïlande ait encouragé cette candidature pour contrer les militaires qui tiennent les rênes du pays?
Effectivement, ce n'est pas tout à fait impensable, Philippe. On savait que le souverain actuel de la Thaïlande était proche également de Thaksin lorsque ce dernier était premier ministre. Dès le début du règne, il semble que le roi Vajiralongkorn essaie de faire bouger des choses en s'imposant face au pouvoir militaire incarné par Prayut Chan-o-cha. Certains analystes commençaient à se demander déjà si le nouveau roi n'allait pas réintroduire Thaksin dans le jeu politique. Maintenant, la candidature de la princesse Ubonratna, proche du roi et en même temps proche du clan Thaksin, crée des troubles chez les royalistes et le pouvoir militaire qui, eux, jurent de ne plus jamais revoir Thaksin et son clan revenir sur la scène politique.
On n'a pas fini d'en parler, bien évidemment. C'était Pisemam dans Accent du Monde. Le Brésil, à présent, avec l'inquiétude d'un certain nombre de professeurs et d'élèves, de parents d'élèves également, Marcia Bechara, il y a un projet du gouvernement, en effet, qui crée la polémique.
Hein. Effectivement, Philippe, ce mouvement a vu le jour début novembre 2018, juste après l'élection de Jair Bolsonaro à la tête du pays, quand une députée liée au nouveau président a balancé une vidéo sur les réseaux sociaux en évoquant les a priori de cette école sans parti, un mouvement qui repose sur l'idée que les systèmes scolaires au Brésil serait sous influence communiste. Les projets de loi étaient officiellement présentés au Parlement brésilien le 1er février par la députée Bia Kicis, issue du parti de Bolsonaro. Il s'agit pour les militants de l'école sans parti, derrière lesquels on distingue la silhouette des églises évangélistes, d'éradiquer le marxisme qui, paraît-il, infeste les corps enseignants brésiliens, bien aussi que la théorie du genre. Les Brésil de Bolsonaro ou l'Hongrie de Victor Orban, on n'est pas jamais trop sûr, mais selon le sociologue Frédéric Vandenberg, professeur à l'Université fédérale du Rio de Janeiro, les projets de loi brésiliens cacheraient peut-être d'autres intentions.
La situation des universités no Brasil est extrêmement critique.
Alors que pense cet universitaire de ce mouvement, Marcia?
Il dit que la situation des universités au Brésil est critique, que le gouvernement Bolsonaro a déjà affirmé qu'il établira des critères idéologiques pour la concession des bourses et d'autres subventions scolaires. Vandenberg affirme que l'école sans parti est simplement une terreur institutionnalisée. Il dit aussi que plusieurs élèves radicalisés sont déjà en train de filmer et de dénoncer des professeurs. Selon les sociologues, derrière l'école sans parti, il y a un projet concret de privatisation des universités au Brésil et aussi ce qu'il appelle une destruction programmée de l'Université de l'État de Rio, où Vandenberg a enseigné jusqu'à l'année dernière. Philippe.
Alors revenons sur le texte. Hein. Que prévoit précisément ce projet de loi?
Il est plus strict, ce texte présenté par la députée Biakis, et ce texte déposé lundi par la députée brésilienne, offre les droits aux étudiants à enregistrer des cours des professeurs. Il propose un mécanisme de plainte anonyme par rapport aux professeurs. Interdit aussi aux groupes d'étudiants de faire ce qu'ils appellent des activités politiques ou partisanes au sein des universités ou des institutions scolaires, un type de réunion tout à fait traditionnel au Brésil, chasse aux sorcières ou une espèce de marcatisme tropical, nous ne sommes pas encore sûrs, mais une chose est certaine, Philippe, la qualité, la liberté de l'enseignement public risque trop dans le nouveau Brésil de Bolsonaro.
Marcia Béchard de la rédaction brésilienne de Radio France Internationale. Ils sont à nouveau en France. Vous devez avoir vu les affiches dans les stations de métro, dans les rues, et même des publicités sur vos ordinateurs. S'il s'agit du ballet chinois de Chen Yung qui se produit donc en France, il présente un spectacle basé sur les 5000 ans de la Chine. C'est un ballet coloré qui se produit donc dans la capitale française, ainsi que dans 5 autres villes d'ici à la fin du mois de mai. Alors, Yann Van Der Meij, du service en anglais, vous avez assisté à l'une des représentations de Chen Yung ici à Paris. Comment c'était?
Oui, c'était un spectacle éblouissant d'acrobatie, de danse. Ils sont guidés à travers des siècles de civilisation chinoise. Mais ensuite, juste avant la pause, il y avait une scène particulière. Il était situé dans la Chine moderne avec une ligne d'horizon d'une ville chinoise moderne. Sur la scène étaient des gens qui méditaient. Mais soudain, des vilains acteurs sont apparus vêtus en vert, portant le symbole du marteau et de la faucille communiste sur le dos, mais à l'envers, oui. Et ils ont commencé à frapper en dansant les méditants pacifiques et les traînent dans une prison.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Ils ont montré à une femme qui avait été torturée. Il y a un mec en blanc, médecin, avec une croix rouge, est entré et en faire quelque chose des jeux. Ce gérant qu'ils ont emmené, il a emmené les jeux, il saigne.
Et ça voulait dire quoi?
Il semble que le groupe Chen Yun fasse partie d'un grand mouvement de méditation globale qui s'appelle Falun Gong. Ils sont persécutés par le Parti communiste en Chine et emprisonné un exposé de Chine. Leur chef, un certain Li Hongzhi, a trouvé refuge aux États-Unis et a construit un gigantesque complexe à New York où était également basé le groupe de danse Chen Yun. Et ils accusent le gouvernement chinois d'exécuter les membres du Falun Gong et avant cela de prélever leurs organes. Et cela a été décrit apparemment dans cette courte scène lors de la représentation de Chen Yun.
Oui, le gouvernement chinois qui traite Falun Gong de secte, hein,
voilà,
carrément. Est-ce que tout cela est bien crédible, hein?
Oui, j'ai posé cette question à Madame Marie Drillion, qui est un membre de UNADEFI, une association qui se bat contre les cultes. Elle m'a dit qu'il n'y a aucune preuve pour ça. Par contre, elle dit quand même que cette groupe elle-même peut être dangereux. Et elle avait ceci à dire.
Il y a une promesse d'acquisition de pouvoirs supranormaux, si j'ose dire. Et une promesse, celle-là, elle est vraiment un risque sur la santé. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur un peu une définition de la maladie comme quelque chose qui va pas en vous, et que, en pratiquant le Falun Gong, on a des chances de pouvoir éliminer la maladie. Donc il y a un risque là que nous soulignons assez souvent dans des mouvements comme ça, c'est attention, risque d'arrêt de traitement conventionnel au profit de uniquement la pratique et donc perte de chance de santé.
Et il faut ajouter que le gouvernement chinois se sent menacé et que la répression contre ces gens se poursuit. Hein.
Oui, c'est une histoire de prélèvement d'organes, mais ils disent à leur tour que les membres du Falun Gong se font du mal eux-mêmes, à leur famille, mettant ainsi en danger le tissu général de la société chinoise.
Merci Yann Vadarmé de la rédaction en anglais de RFI. C'était Accent du Monde. Merci pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité de la planète.